sur l'art et la culture d'ici. Écoute locale. Écoute CHIZ 94.3.
Est-ce que j'aurais peur de sortir aux petites heures du mat? Je fais-tu partie des statistiques de violence conjugale? Est-ce que je serais leur égal ou sans maquillage? Je rêverais-tu d'avoir un chum qui me paye un voyage au Portugal? Si j'étais arme, je veux dire arme à feu. Je serais-tu Smith & Wesson ou bien Winchester? Je serais-tu fier de voir ma tête dans...
Ce soir, au cabinet des banalités, François Provost, Raphaël Laverdière et Émile Lapointe vous parlent de l'hygiène.
Cléopâtre.
Le savon de Cléopâtre.
Le savon de Cléopâtre.
Cléopâtre souveraine, et elle est riche savon. C'est pour la reine des reines qu'on apporte le savon.
Alors, on entendait
cette... C'est aigu, ça?
Oui, c'est pour ça que j'ai entamé le fade-out au moment où ça l'arrivait. Alors, on écoutait la scène qui s'appelle « Le bain de Cléopâtre » dans l'ancienne version d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Je parle ici du film et non de la bande dessinée, pour ce qui est de l'audio et du vidéo.
On n'est pas encore arrivé là, hein? Non, c'est l'audio ça. Dans nos BD.
Ben, je veux dire, c'est pas si loin quand même. Là.
Ah, des cartoons, c'est un peu des dessins animés, un peu.
Ouais, j'ai bien aimé ton accent sur cartoons.
Cartoons.
Donc, c'était la scène où, vous l'aurez compris, Cléopâtre prenait son bain. Celle-ci, apparemment...
Avec beaucoup de monde.
Oui, oui. Ben, il fallait s'assurer, justement, on entendait... Je sais pas si vous avez entendu quelqu'un qui faisait... C'est, oui. C'est un... Désolé pour les gens qui ont le ASMR facile. C'était le goûteur qui goûtait son savon pour être sûr qu'il n'était pas empoisonné. Donc, j'ai bien aimé cette petite touche. Cléopâtre qui prenait apparemment son bain dans du lait d'anesse pour garder sa peau bien jeune. Même qu'il y a des savons qui sont encore faits aujourd'hui. Il y a des crèmes à base de lait d'anesse. Vous l'aurez compris, on parle d'hygiène aujourd'hui.
Oui. On parle pas de lait d'anesse.
Ouais, non, c'est Cléopâtre.
C'est ça. On parlait de routine d'hygiène de cette madame Cléopâtre.
Qui était de servir du savon à son goûteur à manger avant chaque bain.
Oui, oui. Ben,
c'est, c'est une routine qu'on a encore aujourd'hui. Hein? Oui, faire goûter nos produits hygiéniques.
Pour vrai, là, je serais pas si surpris que ça ait une espèce de fondement réel parce que ça serait une méthode d'empoisonnement. T'sais, on s'entend qu'à l'époque, l'empoisonnement, c'était quand même quelque chose de commun. Ouais, quand même commun. Là. Mm. T'sais, t'aimais pas quelqu'un, peut-être mettre un peu de tigu dans son savon. ça l'avale un peu d'eau savonneuse à crève drette là. Parce que c'est quoi? C'est un gramme, je pense, de la ciguë pour tuer un adulte. En tout cas, on est supposé parler d'hygiène.
Tu vas trop loin.
Beaucoup trop loin.
Ouais, je n'ai pas les compétences de ciguë.
Donc, l'hygiène, si je me fie à une définition du Larousse, c'est l'ensemble des principes des pratiques individuelles ou collectives visant à la conservation de la santé, au fonctionnement normal de l'organisme. Donc, c'est tout ce qui est en dehors du corps puis qu'on peut contrôler pour conserver la santé, finalement. Mmh. Fait que ça implique aussi l'environnement qui nous entoure. Mmh.
C'est une définition large quand même.
Oui, quand même. Ouais,
c'est presque l'hygiène de vie. C'est quand souvent, quand on prend une définition aussi large, j'ai l'impression qu'on va dire hygiène de vie, dans le sens de toutes les pratiques pour conserver sa santé, alors que hygiène seulement, on dirait que ça réfère au nettoyage.
Absolument.
À la propreté. Tandis que ça, c'est pas un synonyme de propreté.
Oui, comme on pense à l'hygiène salubre, ces trucs-là. Oui, je comprends. Quelque chose que j'ai appris de très intéressant, parce que je m'amuse tout le temps à faire un peu d'étymologie avec nos thèmes à chaque semaine. Puis le mot hygiène dérive du nom de la déesse grecque Hygi, qui était la déesse de la santé et de la propreté. C'était la fille d'Asclépios, qui était lui-même le dieu de la médecine. Je crois que c'était un centaure aussi, si je ne me trompe pas. C'est vraiment un détail peu important.
Il faudrait regarder des documents historiques pour voir si c'était effectivement un centaure.
Un bon vieux centaure. Et vous connaîtrez peut-être aussi le nom de sa sœur, Panacée, qui est la déesse guérisseuse qui est liée aux traitements médicaux et aux médicaments.
Mon Dieu!
Comme
une
c'est
famille
intéressant.
De propre en santé.
Oui, absolument. Une belle famille. Donc, je voulais nous lancer justement, vous verrez à peine le lien historique que je vais faire ici, sur une espèce de survol historique de l'hygiène dans le monde europo-occidental. Donc, on va commencer justement avec la Grèce et Rome.
Oh,
donc,
on était proches.
Oui, on était assez proches avec la mythologie grecque. Donc, autant en Grèce antique que dans l'Empire romain, on fréquentait régulièrement des bains publics ou des thermes qu'on appelait dans ce temps-là. Et les riches avaient leurs propres installations privées, des beaux bains en marbre, tout équipés avec leurs propres serviteurs et tout. Et les plus pauvres, ils s'arrangeaient dans les installations publiques qui étaient souvent bondées et beaucoup moins décorées. On voit ici le parallèle avec les piscines creusées dans les cours arrière et les piscines publiques qui sont pas tout le temps très, très salubres.
Ça veut dire que les gens qui sont dans les piscines publiques, là, c'est la plèbe.
Ben, je veux dire, tout le monde a le droit d'aller dans une piscine.
J'espère que personne va là pour se nettoyer, comme le faisaient les Grecs.
Mon Dieu. Ça serait tannant pour les autres occupants de la piscine. Donc, anyway, il y a tellement de chlore là-dedans qu'il n'y a rien qui survit à ça. Sauf les humains. Donc, pour vous donner une idée d'à quelle échelle les gens prenaient leur bain, à l'apogée de Rome, on parle d'à peu près 1 million d'habitants, il y avait environ 900 bains publics qui étaient disponibles. Là, je vous donne une idée, là, un bain public, c'est à peu près la grosseur d'une piscine. Là. Fait que ça fait de la piscine longtemps, là, 900 piscines. Là.
En même temps, il y avait 1 million d'habitants.
C'est vrai. C'est vrai.
C'est pas si gros en surface et en eau.
Moi, c'est vrai, mais en même temps, ce que j'ai oublié de mentionner aussi là-dedans, c'est que t'avais cette étendue d'eau-là, t'avais les thermes à côté, des saunas, des espaces d'exercice physique. C'était comme des complexes sportifs, finalement. C'était un peu comme des centres multiculturels. Des centres, comment qu'on dit ça? de loisirs et de culture dans les petites municipalités. Là. Je ne sais pas trop comment ils appellent ça.
Un centre multifonctionnel.
Ouais. Multifonctionnel, mon Dieu, je disais multiculturel. Oui, ça a un peu la même fonction. Donc, c'est ça, tout ce qui est loisirs, qui est détente, nettoyage. Tout le... On y faisait même de la négociation aussi, parfois.
Dans les termes?
Dans les termes ou dans les bains publics.
As-tu vu le jeu de mots marchand que j'ai fait?
Dans les termes. Ah. 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 Quels sont vos termes? Peut-être que ça vient de là.
Peut-être.
Peut-être pas aussi.
Pas aussi.
Donc, justement, dans cette espèce de culture-là, cette culture du corps-là, on sacralise justement le corps et son entretien. Donc, juste pour vous donner un exemple, les statues des dieux, avant le christianisme, bien entendu, on les plongeait dans l'eau des bains publics pour les nettoyer, pour les purifier. Puis c'était la même chose pour les jeunes femmes avant leur mariage. Donc, on leur faisait prendre une espèce de bain rituel. Puis il y avait toutes sortes de rituels très précis par rapport au nettoyage du corps pour le rendre pur, pour le rendre sacré, pour le rendre prêt à une cérémonie religieuse, par exemple. Hmm. Justement, le médecin Hippocrate, oui, le gars du serment, il prescrit la propreté du corps, son entretien par les exercices physiques et la modération dans les consommations. Donc, hein? Puis on... comment qu'on appelle ça? Les gens ont dit... Quelqu'un qui aime beaucoup les bonnes choses...
Épicurien?
Un épicurien. Si je me souviens bien, Hippocrate était de cette école-là. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les épicuriens étaient vraiment dans la modération de la consommation et non dans la consommation dans l'excès.
C'est pas des hédonistes.
C'est ça, exactement, à l'opposé des hédonistes. J'apprenais ça aux mauvaises personnes parce que vous le savez déjà. Mais peut-être que nos auditeurs et auditrices ne le savaient pas. Donc, derrière tout ça, ces bains-là, il y avait un impressionnant système d'aqueduc qui alimentait les bains. Mais... ce système d'aqueduc-là, qu'on peut trouver des vestiges aujourd'hui, c'est super impressionnant. Il permettait aussi l'évacuation de millions de litres d'eau usée, parce que quand il y a un million de personnes à la même place, puis que c'est très compact, cette population-là, ben il faut se débarrasser des déchets humains. Puis même à l'époque de Rome...
Des déchets humains, on parle vraiment des...
Pas
des gens qui mériteraient de se faire picher dans la rue, mais ce que, les déchets que ces personnes-là vont sécréter.
On garoche dans l'aqueduc. C'est sûrement déjà arrivé. Ça a quand même duré quasiment 2000 ans, l'Empire romain.
Ouais, sûrement qu'il y a une couple de gens qui le méritaient.
Puis les systèmes, est-ce qu'ils étaient ouverts? Est-ce qu'ils étaient fermés?
Les systèmes
d'aqueduc. Est-ce qu'on pouvait effectivement tirer quelqu'un dans...
Probablement. Ben, de ce que j'ai vu des vestiges, c'est vraiment à l'air libre. Okay. Ils faisaient passer des canaux, carrément. Mais même à Rome, si vous aviez une petite envie qui vous pognait en plein milieu de la rue, vous pouviez aller vous soulager dans des toilettes publiques. Parce que oui, il y avait des toilettes publiques. C'était des sièges disposés un à côté de l'autre. Puis d'ailleurs, c'était dans un petit bâtiment. Mais par contre, je te vois être soulagé, mais tu vas l'être moins un petit peu maintenant parce que...
Tu me vois me soulager.
Non, être...
Faut dire aux auditeurs que
on parlait
je suis
de
pas
toilette.
Ouais, non, c'est ça. J'ai mal choisi
sens,
mon...
figuré, tout le monde.
Excusez mon lapsus. Non, les panneaux qu'on a dans nos toilettes modernes, là, c'est une invention moderne. Dans ce temps-là, t'avais ton trou. Tu t'assoyais à côté de l'autre personne.
Ton body à
ouais,
côté.
Puis le monde y jasait. Puis il était assis un à côté de l'autre. Il y avait une espèce de promiscuité.
J'imagine qu'ils ont dû mettre des panneaux pour faire que ça avance puis que le monde arrête de jaser.
C'est l'équivalent d'avoir son sel ça à bol à l'époque. Donc oui, ben moi j'ai trouvé ça super impressionnant. Le système de toilettes publiques qui remontait jusqu'à la Rome antique quand même, ça fait longtemps que ça existe. Puis ça m'amène à parler du Moyen-Âge.
Oui.
Cette époque qui a été très bien représentée par Monty Python, par quelqu'un plein de bouettes qui critique le système en disant qu'il est tanné d'être plein de bouettes.
Bring out your dead!
Oui. Ça, c'était vraiment quelque chose qui se faisait, par exemple. Je vais vous l'expliquer plus tard quand je vais parler un peu de la peste.
Puis pour la référence, c'est juste qu'au début du film de Monty Python, The Holy Grail, il y a juste quelqu'un qui a une barouette qui fait juste dire bon, ramassez vos morts, ouais. Venez juste me porter vos morts. Et c'est très drôle.
Oui, c'est ça. Au Moyen-Âge, ben, je disais que Monty Python l'avait représenté plein de bouettes, le paysan moyen-âgeux moyen, mais selon ce qu'on peut en comprendre, d'après les images qu'on a du Moyen-Âge, les enluminures, les œuvres artistiques et tout, les rites de propreté de la Grèce antique et de l'Empire romain, ben, ils étaient quand même bien ancrés dans les mœurs des gens au Moyen-Âge. Mmh. Donc, on avait peut-être oublié d'où ça venait, mais c'était resté dans la culture et on pouvait justement voir dans les illustrations des gens qui se baignaient, des gens qui se nettoyaient dans des bains, même qu'au 13e siècle, les bains publics étaient considérés comme raffinés puis comme un moyen de se distinguer du bas-peuple qui était obligé de se baigner dans la rivière. Donc, il y avait encore cette culture-là de se nettoyer dans l'eau puis de bien se décrasser.
Tu disais qu'il y avait des illustrations de ça. Il me semble que j'aurais été gêné d'être les personnes qui se fait dessiner pendant que tu te laves.
Mais justement, avant la grande prise de pouvoir, l'âge d'or un peu de l'Église catholique absolue qui contrôlait tout, il y avait des choses plus... Le monde était plus lousse avec la sexualité, avec toutes sortes de thèmes comme ça qui étaient beaucoup moins tabous qu'on pourrait se l'imaginer. La nudité ou encore juste de déféquer. J'écoutais un podcast sur l'hygiène, justement, de Laurent Turcot, c'est-à-dire L'Histoire nous le dira. Il parlait d'une représentation sur un tableau qui était gardé au palais royal anglais, le Westminster Palace, si je ne me trompe pas, et qui représentait une peinture néerlandaise. Puis on y voyait un homme en train de... Tu sais, tu avais toute la scène du village classique, puis tu avais un homme dans le coin qui était en train de soulager. Là. Il était à genoux, puis... faisait ses affaires.
L'art!
Puis apparemment que c'était très fréquent dans les œuvres, spécifiquement les œuvres des Pays-Bas, un peu comme une joke de présenter quelqu'un qui est en train de se soulager dans un coin. Donc ouais, c'est très particulier.
Et quand on y pense, là, j'ai oublié le nom de l'artiste, là, mais dans l'art contemporain, il y a ce fameux urinoir qui a été mis l'autre bord pour...
Oui, dadaïsme.
Je me suis épuisé exactement du nom de l'artiste, mais enfin, les toilettes, ça fait partie de l'art aussi.
Absolument, absolument.
Puis, ça me fait penser à une autre œuvre d'art, avec des gros guillemets, qui s'appelle « Merde d'artiste ».
Oui.
Vous connaissez sûrement ça, de Piero Manzoni. C'est son petit caca dans un pot.
Ouais.
Puis c'était une œuvre d'art.
Puis il a fallu qu'il se débarrasse de l'œuvre parce que c'était des conserves pour empêcher que ça sente. Puis il y en a une qui a percé. Donc il a fallu qu'il.
Ouais, il y en avait plusieurs. Hein.
Ouais, ouais. En tout cas,
quelle drôle d'idée. Je pense qu'on est un peu après l'heure du souper, l'émission.
Ouais, ouais, ouais. On s'excuse à tous nos auditeurs, auditrices qui soupent tard ou qui ont le cœur sensible.
Au Moyen-Âge, les gens n'étaient pas boiteux. Quand est-ce que la boîte arrive?
Ben justement, quand est-ce que la boîte arrive? Ben là, c'est. Plus tard, parce que l'Église, en montant au pouvoir, elle s'est mise à ambitionner de plus en plus sur ce qu'elle interdisait. Donc, elle a fini par essayer d'abolir, à partir du 14e siècle environ, essayer d'abolir les bains publics qui l'estimaient associés à la débauche et à la nudité. Donc, c'est ce qui était vrai pour la nudité, parce que prendre son bain habillé, c'est un petit peu tannant. Pour ce qui est de... Parce que, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait carrément une peur de l'eau qui est apparue à m'amener dans l'histoire de la santé.
Ah.
Donc, la noblesse, particulièrement au 17e siècle, là, on est rendu à Renaissance. Là, on n'est pas au Moyen-Âge pantoute, là, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les nobles se sont mis à avoir peur de l'eau parce que la croyance s'était répandue que l'élargissement des pores par l'eau chaude, ça permettait de faire rentrer les maladies dans le corps. Donc, on voit qu'on comprenait pas si bien les maladies que ça dans ce temps-là. Parce que, surtout que ces croyances-là se répandaient, parce que c'était l'époque où on vivait des épidémies de peste à répétition. Donc, si je vous donne un peu de contexte, la première grande épidémie de peste en 1347, elle a tué environ entre 75 millions et 200 millions de personnes. Sur la population de l'époque, ça fait, si je me souviens bien, 30 % de la population du monde occidental. Ça fait du monde en chien.
Donc, mais aussi le choléra qui...
Oui, ça, c'est venu beaucoup plus tard, par contre.
Ah, pardon.
Mais je vais y venir, d'ailleurs. Je vais le manger. Le choléra va avoir sa place dans mon histoire.
Une chance.
C'est ça. On pensait que l'eau transmettait les maladies, donc on se couvrait, on se laissait une bonne couche de crasse pour empêcher les choses de rentrer. Donc on pensait que les mauvaises humeurs, comme on le pensait à l'époque, pouvaient rentrer dans notre corps de cette façon. Donc le rituel, il y avait quand même des rituels de propreté. On pensait qu'il fallait faire une toilette sèche, c'est-à-dire se frotter le corps, les parties visibles du corps, c'est-à-dire le visage et les mains surtout, avec un linge blanc quand on était riche ou avec n'importe quoi qui tombe sous la main quand on était plus pauvre. Et pour les riches, il fallait vraiment que le linge soit blanc. Là. C'était important parce que c'était associé à la propreté. J'imagine qu'il n'était pas si blanc après, donc ça devait faire du gaspillage de linge au pied carré. Pour ce qui est des cheveux, on les brossait très longuement pour essayer de dégraisser le plus possible. Je m'écœure un peu en disant ça. Où on portait carrément des perruques avec les cheveux rasés en dessous, comme le voulait la mode, selon la mode qui a été lancée par Louis XIV. Louis XIV qui avait lancé cette mode parce que lui-même perdait ses cheveux abondamment à cause du typhus.
Clever.
Ouais. Donc, c'est ça. Et au lieu de se laver, encore une fois, on préfère mettre des parfums sur ses accessoires qu'on porte, comme ou son éventail, ou juste tout ça pour répandre une bonne odeur et cacher la nôtre. Et c'est exactement ces pratiques-là qui coïncident avec les épidémies de peste. Donc, on se demande pourquoi. Ça a duré environ jusqu'au début du 18e pour que les bains redeviennent un synonyme de santé. Donc, c'est quand on est arrivé la physiologie, c'est-à-dire l'étude du fonctionnement des organismes vivants. Donc, on s'est mis comme à disséquer les cadavres sans que ça soit tabou. On s'est mis à vraiment observer de près les phénomènes du corps puis à comprendre un peu plus comment ça marchait.
Ouais, c'est l'avènement de la médecine. Là.
C'est ça, l'avènement de la véritable médecine. Puis avec ça, ben, on s'en a réalisé que se laver, c'était une bonne chose. Donc, prendre des bains d'eau chaude, d'eau froide pour différentes raisons. C'est sûr qu'il y avait des choses fausses qui circulaient à l'époque, mais c'était déjà un peu mieux que de penser que l'eau, c'était le démon. Mais il faut dire que tout n'était pas réglé. Si on prend l'exemple de Londres au 19e siècle, il y a eu une explosion de la population qui a surpassé la capacité des égouts. Donc, ces égouts-là, d'ailleurs, étaient collés au système d'évacuation des eaux usées. Donc, ça l'a... J'étudie les égouts? Oui, c'est ça. Les égouts étaient collés au système d'eau potable. C'est ça que je voulais dire. Okay. Là, on voit le problème. Là.
Oui.
Puis, ça l'a entraîné plusieurs épidémies de choléra. Celui-là se répand par l'eau, contrairement à la peste qui, elle, se répand par la salive. Donc, à force... que ça soit comme ça, que les gens pognent le choléra. Et en plus qu'à l'été 1858, il y a eu une sécheresse épouvantable, la Tamise s'est mise à sentir le maudit. Donc, la puanteur était tellement insupportable que les gens du Parlement avaient été incapables de travailler. Ils se sont dit, on va faire une réforme, puis on va refaire toute l'infrastructure de la ville. Puis, au même moment, il y avait un ingénieur civil qui était prêt avec ses plans, parce que lui, il avait remarqué que ça puait depuis longtemps. Il s'appelait Joseph Bazalgette, et il était justement un ingénieur civil qui a refait l'infrastructure au complet de tous les égouts de la ville, ce qui a coûté l'équivalent d'environ 4 milliards de dollars en argent d'aujourd'hui.
Mmh.
Ouais, c'est quand même des plans d'importance, des millions de livres sterling à l'époque, c'était pas du petit change. Et justement, cet ingénieur civil-là était tellement reconnu comme un héros à l'époque qu'on en a fait un chevalier.
Chevalier.
Pour le sacré chevalier.
Chevalier de la propreté.
Oui. Donc, après toutes ces frasques sanitaires que j'ai décrites au fil du temps, ben on peut voir qu'avec nos toilettes qui flochent et nos douches chaudes, maudit qu'on est chanceux.
Mmh, on n'a pas le choléra.
Oui, c'est ça.
C'est bien ça.
Oui, oui.
Je sais pas si vous saviez, le choléra, c'est intéressant. Les représentations du choléra, généralement, c'est un squelette qui porte une couronne, parce qu'on l'appelait le choléra le King Death, et il abreuve les gens du peuple, souvent un puits. Il est vu en train de donner de l'eau aux gens, parce que c'était comme ça que le choléra était attrapé.
Ouf, c'est un peu dégueu.
Puis on imagine dans l'arrière-plan de la représentation du choléra, il y a quelqu'un qui est en train de déféquer parce que à l'époque,
c'est un Irlandais qui l'a dessiné et il trouvait ça drôle.
C'est l'art.
Ouais, exact, exact. Mais justement, avec la fin de tout ça, la modernité, ben, on est arrivé avec un mouvement qui était appelé l'hygiénisme. Je pense que tu avais la définition pour nous, Raph, pas trop loin.
Oui, je vais pouvoir vous en parler sous peu, en fait. Moi, j'ai lu un livre très intéressant cette semaine qui s'appelle « Un idéal masculin, barbe et moustache au 15e et 17e siècle » de Jean-Marie Le Gall. Et moi, je voyais un lien clair entre propreté, hygiène et pilosité. On sait que c'est vraiment très lié dans l'histoire et encore aujourd'hui. La pilosité, je réfléchissais à ça, puis ça nous sautait aux yeux comme symbole de l'hygiène, entre autres parce que le visage, c'était considéré comme le siège de l'âme. Donc, ce que tu portais sous ton visage, c'était très important. Il fallait que ce soit bien géré. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on était dans un contexte d'une médecine qui était obsédée par la purgation des humeurs. Donc, les humeurs, on le sait, là, il y en avait quatre. Puis c'était le sang, la bile noire, la bile jaune et le...
Phlegme.
Ouais, le phlegme. Et c'était associé justement à la santé d'une personne et sa personnalité. À ce moment-là, cette époque-là, il y avait un penseur humaniste italien de la Renaissance qui estimait que la barbe touchait directement la conservation de la santé. Donc, la barbe n'était pas juste là pour faire beau. Elle aidait les gens à rester en santé en se nourrissant des humeurs superflues chez les gens. Donc, ça conservait également les dents de la corruption. Ça renforçait les gencives. Et selon lui, il estimait qu'il arrivait fréquemment à ceux qui se rasaient d'être complètement édentés avant l'âge ou d'endurer des maux de dents. Bon, je sais pas, vous les gars, vous avez une barbe, vous êtes correct?
Oui, Émile, toi, ta moustache en ce moment, tu dois te sentir sauvé par ta moustache.
Ah oui, mes dents n'ont jamais paru aussi fortes et propres.
Elles sont moins branlantes depuis que tu as ta moustache.
Hein? Exact, exact. Ouais. Parce qu'avant, ça, ça shake.
Puis une autre chose qu'il disait qui a plus de sens, c'est que ça l'aidait l'hiver à garder au chaud.
Ah, OK, ouais.
Ouais. Même au frais l'été, apparemment, un peu comme le poil des chiens.
Et je vous laisse sous un proverbe avant la pause qui dit « Peu de barbe sous blême couleur, note l'homme de nulle valeur. »
Wow!
Donc un homme qui est blême, qui n'a pas de barbe, c'est pas un bonhomme intéressant.
Ah, je connais une couple de mes amis qui seraient tristes à entendre ce proverbe.
Se sentiraient insultés. Donc, on va pouvoir poursuivre sur ce thème très intéressant lié à l'hygiène après une petite pause.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Du 21 au 25 juillet, le festif de Baie-Saint-Paul brasse de grosses affaires. Pour l'occasion, l'équipe de Chiz y sera pour réaliser des entrevues, des émissions exclusives, en plus de couvrir les spectacles de Clopelgag, Men I Trust, Marc-Pierre Arthur, Dominique Fils-Aimé, Corridor, Maud Audet, Mon Doux Seigneur, Fleur Laurentienne, Alex Burger, Chaux Sauvage, Teki Teki, Balance, Calamine, Arrière-Bois et plusieurs autres. Donc, on se voit à Charlevoix ou quoi?
Réveilleur Saint-Charles, boisé sur le slalom et zigzag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
The following program is disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h,
Chiz 94.3.
D'écoute!
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salons attachants, on te promet de te faire voyager sans trop te ruiner.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3.
En ce moment, vraiment beau, des trois accords. Donc, on pourrait croire que c'est ta moustache, mais non, ça s'appelle vraiment beau, cette chanson-là, et elle est vraiment bonne.
Merci pour cette chanson, Émile.
Ça fait plaisir, on entend un extrait.
Je vous laissais juste avant la pause publicitaire avec un petit proverbe italien sur la laideur et la non-enviabilité d'un homme sans moustache et sans barbe. la barbe et la moustache, c'était quelque chose qui était valorisé au 15e, 16e, 17e siècle. C'était un symbole de virilité, de santé, de vaillance. Donc, on s'en servait. La barbe parfumée, c'était un instrument de séduction, ainsi qu'un filet de protection contre les miasmes. Donc, autant que ça pouvait nous aider à se débarrasser des humeurs superflues, ça pouvait nous protéger contre les miasmes. Vous savez.
Qu'est-ce qu'un miasme?
Qu'est-ce qu'un miasme? C'est une bonne question. C'est une théorie de la médecine qui a perduré, ma foi, un peu trop longtemps. Ça nous provient du grec ancien. Le mot miasme, de miasma, ça signifie une souillure. C'est l'idée que dans les exhalaisons, dans les émanations malsaines...
Exhalaisons?
Les... Ouais.
Wow.
Les odeurs? T'as appris... Les odeurs, ouais. Le... À sniff-sniff. Je
vais baisser
mon vocabulaire pour vous, les gars. Donc, dans les odeurs qui puaient, il y avait l'idée qu'il y avait des substances organiques qui allaient nous rendre malades. Donc, si ça puait, il y avait des maladies dans l'odeur. Il y avait des maladies qu'on allait attraper. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, ben on sait que c'est pas vrai. Mais à l'époque, là, on était, comme tu l'as dit, Émile, on était dans un tourbillon de choléra, de peste noire et même de malaria. Malaria, oui. En italien, ça signifie littéralement mauvais air, si je fais ma liaison.
Oh.
Et donc, c'est ça. Voilà, en gros. Et bon, fait que parfumer sa barbe, on était à la fois un aimant à Chicks et on repoussait les miasmes mauvais.
Bière deux coups.
Et les savons à barbe à l'époque étaient très diversifiés, les gars, vous en auriez été contents. Il y avait à l'eau de rose, à l'orange, au citron, la lavande, la sauge, le romarin, le laurier, la menthe, la marjolaine, bref, toutes des plantes qui poussaient dans la nature, qui étaient connues également pour leurs vertus médicinales. Fait qu'on faisait d'une pierre deux coups. Et pour que chacun puisse donner la couleur et l'odeur souhaitée à sa barbe, il y avait toute une panoplie de cire et de pommades qu'on pouvait appliquer le soir. Parce que oui, ça date pas d'hier, la cosmétique masculine. Dans l'histoire, ça prenait une place quand même importante. Et il y a des époques même où que la cosmétique était réservée aux hommes et les femmes, eux, nature. Bref, on est à l'époque de la pommade de la barbe. Donc, tu t'appliquais ça le soir et t'enfermais ta moustache et ta barbe la nuit dans un sac qu'on appelait la bigotelle ou la bigotière pour empêcher que ça soit froissé. Mais la bigotière, la bigotelle, ce sont des mots qui sont dérivés de bigotes en espagnol qui signifie moustache. Donc, ça témoigne de l'engouement pour les moustaches et de l'influence espagnole dans la première moitié du 17e. Donc, le soin de la barbe et le barbier à cette époque-là, c'est considéré comme un soin spécialisé qui était indispensable au maintien des bonnes mœurs. Le médecin Leonardo Fioravani estime au 16e siècle que l'art du barbier est nécessaire pour la netteté et que sans lui, plusieurs vivraient déshonnêtement et sales. Je trouve ça vraiment intéressant dans cette citation-là.
On embarque la morale.
Oui, exactement. On embarque dans complètement autre chose, mais on voit que les liens entre la propreté puis la droiture d'une personne, la droiture qu'on suppose d'une personne, non seulement son statut social et économique, mais ses valeurs, son honnêteté, ben c'est intimement lié. Encore aujourd'hui, on a plus tendance à croire quelqu'un qui a l'air net que quelqu'un qui est plein de boîtes. Je peux faire un haïku?
On comptera ça. Comptez ça à la maison, voir si c'était vraiment un haïku.
Non,
c'était
pas un haïku.
Carafe vient faire.
Bref. Donc, la tendance a peu d'importance. En fait, que la beauté soit à un moment dans l'histoire, à un visage qui va être rasé, net, tout ça, ou à une autre époque, dans la barbe, la belle moustache, la pilosité faciale est toujours encadrée par des manières de faire qui correspondent aux convictions morales de l'époque.
Mm-hmm.
Mais à toutes les époques, pas de pilosité hirsute. Ça, par exemple, ça n'a jamais été de bon goût. Ça m'invite à passer l'autre bord de la clôture, puis vous parler un petit peu d'hygiène et de propreté, mais au féminin.
Mm-hmm.
D'abord, je vous situe, le courant hygiéniste était un courant médical et de l'hygiène et sociale aussi, qui voulait que... En fait, c'est ce qu'on vit un peu aujourd'hui. Donc, c'est un principe qui selon lequel les pratiques politiques, sociales, architecturales, urbanistiques doivent suivre des règles de préservation de l'hygiène, de prévention de santé publique. Donc, au moment où ils ont compris que les réseaux d'aqueducs, les réseaux d'eau potable, ça devait être préservé d'une certaine manière, bon, on tombe dans ce courant-là, exactement.
Mmh. Tu as raison que c'est assez actuel. Je pense à une certaine nouvelle, là, je n'ai pas entendu parler d'une pandémie qui a remis ça vraiment pas mal de l'avant. Le terme santé publique que tu as souligné, mais ça, on l'a entendu souvent.
On a été bon de ne pas parler de pandémie jusqu'à maintenant, je trouve.
Ouais, c'est vrai, c'est la première mention à l'émission.
Donc, c'est ça, c'est un bon exemple. Aussi, dans la conception d'immeubles collectifs pour laisser pénétrer la lumière, la verdure, comment construire un hôpital pour que ça fonctionne bien, pour que chaque pathologie ait son espace distinct. Bon, comment faire un égout efficace, rendre obligatoire les poubelles, organiser des espaces communautaires, municipaux, tout ça. Bon, voilà. Et ce courant de pensée-là, il est né au milieu du 19e siècle dans une société qui était malade. La tuberculose, l'alcoolisme, c'était endémique. Les épidémies, bon, ça pleuvait du ciel. Et donc, c'est ça. Les docteurs, au début du 20e siècle, suite à l'éveil à l'hygiénisme, ils commencent à supporter des initiatives pour améliorer la santé publique afin d'enrayer les épidémies, entre autres. Et... il y en a qui n'étaient pas fous. Il y a des compagnies à l'époque qui ont commencé à exploiter cette nouvelle autorité-là autour de l'hygiène et s'en servir pour influencer l'opinion publique.
Quoi? Des compagnies qui influencent l'opinion publique? Impossible!
Fou, hein? On vous invite à écouter l'épisode sur la publicité la semaine dernière pour voir comment on peut manier l'opinion publique.
Oui, exact. Donc, c'est ça, il y avait une autorité médicale à l'époque et les compagnies s'en sont servies pour influencer les gens au sujet, notamment des odeurs corporelles, en faire quelque chose de non seulement désagréable, mais de vil, qui était comme à l'encontre d'une bonne santé corporelle, d'une bonne hygiène. Et au début des années 1900, il y a un chirurgien américain que lui, il voulait avoir ses mains moites et sèches pendant qu'il opérait. Donc, il a inventé un antiperspirant. Donc, c'est pas pour l'odeur, c'est vraiment pour la...
que les mains restent sèches.
Exact. Pour la transpiration. Qui s'appelait Odorono. Je le dis français un peu, mais c'est Odorono. Un petit jeu de mots.
Odorono.
Puis, quelques années plus tard... sa fille a engagé une agence de pub pour booster les ventes de ce produit-là. Et leur première campagne qui a connu un grand succès s'était positionnée autour de l'idée que la sudation abondante, c'était pas quelque chose de normal, c'était de l'ordre du trouble médical. Et ils ont réussi à avoir l'endossement d'un médecin à ce sujet-là. Et c'est pas sans nous rappeler une des techniques à succès du papa du déjeuner américain actuel, dont on a parlé dans notre épisode sur les déjeuners et dans notre épisode sur la publicité et maintenant notre épisode sur l'hygiène.
Oui.
Donc, c'est un incontournable. Quelques années après cette première campagne-là, ils vont approfondir leur tactique. Ils cherchent maintenant à convaincre la gent féminine que l'odeur corporelle représente un vrai problème pour lequel il faut s'inquiéter et que c'est tellement honteux que personne dans notre entourage oserait nous en parler et qu'on serait l'objet d'humiliation, de déshonneur, etc., etc.
Mon Dieu.
Donc, la pub à ce moment-là, bon, ça déboule. Ce traitement-là, ça n'a pas été juste... laissé aux odeurs corporelles. Ça a été affligé à toutes les petites imperfections qu'on peut imaginer. Donc, le maquillage imparfait, les cheveux gris, l'acné, la pilosité des aisselles, la mauvaise haleine, qui, soit dit en passant, on nommait par son nom clinique de halitose, ce qu'on trouvait moins offensant, plus coquet. Les campagnes pseudo-médicales sont également parties en guerre contre l'hygiène féminine. Ils ont trouvé là un public qui était très lucratif. Et c'est dans ce contexte-là que Listerine, donc qui fait le rince-bouche, afin de booster ses ventes, a inventé le slogan « Always a bridesmaid, but never a bride ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette petite citation-là. On entend ça dans toutes sortes de contextes pour dire que la femme qui est jamais capable de lockdown un homme puis de se marier puis que tout le monde lui file entre les doigts, puis on sait pas pourquoi, eh bien, ça vient d'une pub de Listerine. Qu'est-ce qu'il disait, c'est si tu sens pas bon de la gueule, personne
ça vient de son halitose là, quelque chose là, le nom halitose, voilà.
Ah, ouais,
exactement.
Une maladie grave.
Et dans les années 20, il y a différentes compagnies comme Lysol qu'on connaît pour désinfecter plein de choses et nos mains, ils font des petites lingettes fucking fortes pour désinfecter toutes sortes de surfaces. Eh bien,
j'aurais pas mieux dit.
Eh bien, Lysol a commencé à promouvoir des produits désinfectants aux joies de type douche afin de garder l'entrejambe frais. Vous allez me dire, what? Oui, effectivement. Et bon, éventuellement, il y a des médecins qui ont reconnu que ces produits-là n'ont pas, sans surprise, dérangé le corps et le pH naturel, ce qui causait toutes sortes de problèmes. Et à ce sujet, ben, je vous ai trouvé un extrait. Les gars, on écoute ça.
You know what I tried?
What?
Pristine.
Pristine?
Feminine hygiene spray.
Oh, that's right. How do you like it?
I like it. Let you feel fresh, and it lasts all day.
You're kidding. It really lasts all day?
Sure. I use it every morning now.
Pristine spray mist or soft green spray powder. They both last all day.
OK, j'ai
wow, ça, l'enthousiasme règne là-dedans.
Oui, j'ai beaucoup de choses à dire à propos de cette publicité-là qui est, soit dit en passant, tellement démoralisante. Il n'y a personne qui a l'air convaincu de ce produit-là.
Personne n'a le goût de l'acheter. Là.
Exact. Donc, Pristine, qui était un spray pour l'hygiène de l'entrejambe féminin, qui était vendu à l'époque.
C'est
et,
terrible.
La fille qui est toute... elle n'est pas toute contente. Là. Elle est juste complètement...
Oh, oui. Il nous décrivait à quel point il utilisait ce produit-là tous les jours, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Et même le narrateur fait pas de l'air dans son assiette en parlant de son produit.
Bref, c'est un des produits qu'on pouvait retrouver à l'époque. Là. Ça prenait différentes formes, différents formats. Mais l'idée était qu'il fallait faire quelque chose de spécial en plus d'une propriété là, quotidienne. Il fallait faire un geste spécial pour nettoyer cet espace-là qui était malsain, en fait. Voilà, en se shootant des produits dans le perlot. Donc,
ton vocabulaire aujourd'hui, ouais, Raph, est magnifique.
Quelque chose qui s'est passé, là.
C'est dans une montagne russe. Bon, dans les années 30, je recule un petit peu dans le temps, les compagnies américaines de déo avaient déjà une clientèle féminine qui était solide. Donc, à cette époque-là, ils ont commencé à inclure les hommes et leurs odeurs corporelles dans l'équation. Donc, dès les débuts des déodorants pour hommes, les produits sont clairement faits pour les viser. Ils ont un design qui va être très masculin. Des bouteilles noires, des bouteilles en forme de whisky. Et ce qui est intéressant, là, c'est que les publicités ne visaient pas l'insécurité corporelle et l'estime de soi des hommes. Ils sont vraiment allés ailleurs. Eux autres, ils misaient sur des thèmes d'insécurité financière, de ruines professionnelles qui pourraient survenir par leurs odeurs corporelles qui seraient trop repoussantes. Donc, on joue sur des cordes, là, mais comme... sort le violon. Donc, c'est un bon exemple que la gentrification des produits d'hygiène, ça date pas d'hier, manifestement. Les compagnies de parfums ont également pris à l'époque le pari de la masculinisation des produits en utilisant un langage qui était fait sur mesure pour les hommes pour parler de parfum, parce que parfum, c'est féminin. Bon, qu'on parlait d'eau de cologne, d'après-rasage, d'eau de toilette. Et... bien sûr, le nom des flacons eux-mêmes sont faits pour inspirer une aura d'attraction virile.
Est-ce que je peux les lire avec une voix de...
Vas-y.
Brute, centaure, Dante, macho, English leather, denain.
Mais... ça, c'est viril.
En anglais, c'est mieux, là, denim, mais j'aimais bien le denim.
C'est le fun comment on fait des liens avec un autre parfum qui est centaure. on parle de la mythologie grecque au départ. Donc,
Puis on finit avec denim.
C'est les vieux archétypes qui remontent toujours à la surface. Mm. C'était vraiment intéressant, Raph, cette partie-là. Moi, de mon côté, ben, en fait, je souligne le fait que je viens d'apprendre un mot, mais hirsute tout à l'heure, la pilosité hirsute, je ne savais pas ce que c'est. Dans tes termes, comment tu le...
C'est Émile quand il se détache les cheveux.
Ah, c'est ça. Donc, une pilosité très un peu folle, son hérissé et tout ça.
Ouais, ben, sauvage.
Sauvage. Ben justement, tu dis le terme sauvage, parce que moi, je m'intéressais à comment que l'hygiène vient, dans une certaine façon, sortir ou différencier l'homme de la bête. Donc,
rien de moins.
Rien
dans
de
le
moins.
Cas d'un centaure, c'est plus difficile.
C'est très difficile. Il faut couper l'homme en deux ou le cheval. Mais, mais comme on l'a vu, la question de l'hygiène, c'est surtout de l'ordre du sanitaire. Donc, surtout dans, comme on l'entend dans les dernières années, dans la conservation de la santé publique, comme vous l'aviez mentionné tout à l'heure. Mais quand on regarde ça sous l'angle de, un peu plus, je pourrais dire, philosophique de différencier l'homme et la bête, on voit qu'il y a quelque chose autour de l'hygiène parce que c'est un thème assez récurrent dans l'histoire que il y a comme l'homme cherche toujours à s'émanciper de sa nature sauvage. On dirait qu'il y a quelque chose que l'homme cherche à se différencier de la bête, veut se diriger vers le progrès. Et souvent, dans les sociétés dites civilisés, on a souvent justement essayé de se rendre supérieur aux autres sociétés qui étaient peut-être moins organisées, moins technologiques, et on voulait les considérer un peu plus comme des... On voulait les rapprocher de la bête comme étant des barbares, des sauvages, des primitifs. Et souvent, cette différenciation-là s'est faite dans des buts politique, parce que généralement, ce qu'on appelait barbares, c'était juste ceux qui habitaient à l'extérieur de tes murs. C'était pas nécessairement des gens qui avaient moins de culture, qui étaient plus proches d'une bête, mais on se servait de ces rapprochements-là, des primitifs, des sauvages, dans le but de dire voyez comment ceux-ci ne tend à moins se différencier de la bête que nous. Donc, l'hygiène à ce niveau-là peut servir. Donc, quand on voulait justifier l'attaque d'une nation avec des moyens douteux, coercitifs, ben la fin justifie les moyens. On veut civiliser les primitifs, on veut civiliser les barbares, c'est pour leur bien. Donc, pour illustrer le sauvage, ben l'hygiène est une porte d'entrée pour ça, pour justement essayer de créer représenter quelqu'un qui, par une hygiène différente de la nôtre, peut se rapprocher un peu plus de la bête. Dans des exemples de films, j'aime ça utiliser des exemples de films parce que c'est quelque chose de très évident de notre culture générale, mais quand on fait le portrait des hommes des cavernes, justement, on veut souvent représenter ça comme vraiment l'entre-deux, le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Donc, c'est quelqu'un qui se traîne presque à quatre pattes puis qui est totalement poilu, les cheveux hirsutes, la barbe hirsute très longue. Donc, c'est quelqu'un qui... on dirait que l'hygiène pour l'homme des cavernes, de comment qu'on aime se le représenter, mais ça n'existe pas. Donc, et c'est une certaine façon de démontrer comment que notre ancêtre était encore plus proche du règne animal et comment que de notre côté, on s'est émancipé de cette ancêtre de la bête et que maintenant, on est vraiment plus de... on est dans le progrès, on est dans la civilisation. Et quand on y pense, si le poil sort du cadre de la mode ou de la culture, ben il peut devenir choquant. Tu le mentionnais tout à l'heure, Raphaël, mais dans le monde contemporain, justement, tout ce qui est pilosité et surtout avec la féminité, ben c'est justement le terme, c'est presque choquant, surtout en Occident, mais il y a des gens qui, surtout en Amérique, je pense qu'en Europe, c'est un peu moins choquant, par exemple, le poil sous les aisselles, mais ici, en Amérique, ben c'est quelque chose que, mon Dieu, c'est presque tabou. Le poil, quand il est bien façonné, comme tu l'as montré aussi, c'est aussi quelque chose qui est plus associé à tu sais, un poil contrôlé, c'est plus masculin, c'est un peu bestial, mais c'est contrôlé. On contrôle l'animal à l'intérieur de l'homme. Oui, si
exact. Puis ça me fait penser à une figure qui est intéressante, là, qui cadre vraiment avec ça, Tarzan. Ah. On est dans l'homme qui est bestial, qui vit dans la forêt, qui a les cheveux longs, mais en même temps, un torse épilé, il est rasé de près. Tu sais, on est dans le masculin viril qu'on aime, mais il y a un jeu délicat entre les deux pour pas tomber dans le primitif, comme tu disais.
Aussi,
il est imberbe.
Ouais. Il y a des rastas, mais il est imberbe.
Ouais, non, c'est étrange. Puis justement, ben, c'est comme... Là, on vient jouer sur une dimension animale qui, parfois, peut presque être... en tout cas, c'est peut-être le côté psychanalytique qui ressort, mais le côté la libido, le côté animal, les pulsions, mais quand on veut sublimer ces pulsions-là et faire quelque chose de l'ordre de la culture qui nous raffine, ben là, c'est toute cette question-là du poil et de l'hygiène, ben là, ça nous rapproche à quelque chose d'animal, puis on veut essayer de refouler ça dans l'inconscient collectif, si on veut. Une des façons contemporaines, là on était très loin avec l'homme des cavernes, avec Tarzan, mais une des façons contemporaines, quand on y pense, qui est certainement une des plus atroces, qu'on a utilisé le thème de l'hygiène pour rapprocher l'homme de la bête, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, où le régime nazi va dépeindre les Juifs et d'autres groupes opprimés comme étant carrément de la vermine. Et ça, c'est très bien illustré dans le fameux roman graphique ou bande dessinée, tout dépendamment de l'école de pensée que vous êtes, mais le roman graphique Mouse, où Art Spiegelman va représenter les Juifs comme étant des souris ou des rats et des Allemands comme étant des chats. C'est une œuvre merveilleuse, mais ça voulait souligner une des utilisations de la propagande nazie, de comment qu'on pourrait créer un ennemi, de le rapprocher non seulement de la bête, mais une bête qui est une vermine, le rat, la souris.
Porteuse de maladies.
Exactement. Et c'était souvent... tout ce lexique-là n'était pas anodin parce qu'on était dans une façon de penser de tout le mouvement de l'eugénisme qui voulait chercher des populations pures, des populations propres, avoir une race pure, une race aryenne pure. Et on voulait... toutes les contaminations populationnelles, bien, on voulait tasser ça. Donc, on va aller dépeindre l'autre comme étant une vermine qui peut contaminer. Et de ce fait, on rapproche cette... notre ennemi comme un sous-homme, comme une bête, comme une vermine. Et donc, dans ce cas-ci, c'est une des façons que l'hygiène... Quand on utilise le thème de l'hygiène à cet égard-là, on voit comment qu'on peut... c'est une des façons de rapprocher ou de différencier l'homme de la bête. Donc, quand on y pense, en Occident, aujourd'hui, toutes les odeurs corporelles sont généralement perçues comme désagréables. On se lave énormément, on veut éradiquer toute odeur, on se parfume pour camoufler ces odeurs. Donc, il y a quelque chose, de l'ordre historique, comme vous l'avez mentionné, de l'ordre du culturel, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose enfoui dans la psyché humaine, mais que l'hygiène est aussi une façon d'essayer d'être plus humain que l'on l'est, de se cacher.
De s'élever au-dessus de nous-mêmes.
Exact, de même cacher des odeurs qui, parfois, on dirait que sont plus culturellement désagréables que naturellement désagréables. Parce que les odeurs humaines, on en a, là. Mais sont pas toutes, c'est pas toutes dégueu, les odeurs humaines. Il y en a qui peuvent le devenir, mais...
Une question d'habitude, finalement. Il y a beaucoup une question de côtoyer certaines odeurs puis de remarquer que c'est normal parce que dans notre société très moderne qu'on a là, c'est tellement aseptisé qu'on oublie que il y a certaines affaires qui puent. Les poubelles, par exemple. Mm-hmm. J'ai travaillé pour une municipalité personnellement pendant quelques années. Et je me suis désensibilisé à ça parce qu'à force de vider des poubelles, tu te souviens que ça sent quelque chose. Puis même qu'à la fin, ça me dérangeait même aujourd'hui encore, ça me dérange très, très peu cette odeur-là parce que j'y suis vraiment habitué. Puis je suis conscient que cette odeur-là existe, même si elle est très forte, on s'entend, là. Mais ouais.
On tolère une poubelle que ça sente comme une poubelle, mais quelqu'un qui sentirait comme une poubelle, on ne tolérerait pas. Il ne pourrait pas vivre dans la société. En gros, la société va décider des normes qui la gère, qui la régit, puis la propreté, ça va être complètement dicté par ça. Puis on l'a vu avec le courant hygiéniste, il y avait tellement eu de traumatismes liés à une mauvaise hygiène dans les grosses sociétés, dans les pays européens, avec l'industrialisation, les exodes ruraux, tout ça, que... C'est dans le courant de cette époque-là là, qu'il y a l'apparition de l'enseignement à l'hygiène et on regroupe ça dans le contexte de l'enseignement à l'économie domestique au Québec éventuellement dans les années 40, dans les années 50 et l'art domestique qui est l'art de régler sagement sa manière de vivre selon l'une des définitions que j'ai trouvée dans un livre. En 1896,
t'as trouvé ça en 1896?
Guide, ouais, un guide d'économie.
Dans tes nombreux voyages
dans le temps temporel.
Ouais, j'ai trouvé un guide d'économie domestique qui date de 1896, qui est là pour guider les enfants, en fait, guider les professeurs à enseigner aux enfants l'art de l'hygiène, parce que c'est pas quelque chose qui va de soi, c'est quelque chose que t'apprends, puis c'était très normé. Là, dans les années 50-60, les enfants n'étaient pas laissés en « ouais, il va dans la boîte ». Il y avait vraiment une manière de faire. Puis, une anecdote qui me vient de quelqu'un que je nommerai pas, c'est que à cette époque-là, les enfants, ben, il y avait quand même beaucoup de monde dans les années 50, dans les années 40-50, qu'il n'y avait pas nécessairement accès à l'eau courante, il n'y avait pas nécessairement un bain ou une douche à la maison. Donc, souvent, ce qui était fait, c'était un lavage à la débarbouillette, dans le lavabo, tout ça. Et à l'école, ils apprenaient aux enfants la manière de se laver tout le corps avec la même serviette en suivant un trajet particulier, donc afin de garder tout propre. Et ça, pour les maisonnées qui n'avaient pas accès à l'eau courante, ben c'était...
Qui étaient quand même nombreuses, j'imagine.
Ben je n'ai pas les chiffres, là, mais dans le
plus nombreuses
Québec
qu'aujourd'hui, on pourrait...
rural de cette époque-là. Ouais.
Parce que la population rurale était quand même assez élevée à cette époque-là. Donc, puis déjà, de faire traverser de l'aqueduc au fond des rangs, là, ça devait être assez compliqué.
Et pourtant, les normes d'hygiène étaient quand même très importantes. Ouais. Ils n'étaient pas exempts juste
parce qu'il
n'y avait pas
accès. Avec ton exemple, on le comprend très bien. Ça me rappelle justement... Je sais pas si c'était une édition spéciale ou quelque chose, mais un album de Mafalda, je lisais les Mafalda quand j'étais jeune, un album de Mafalda qu'à la fin, Mafalda se brossait les dents et se passait la soie dentaire, puis elle expliquait comment elle faisait, puis elle se brossait la langue aussi, puis elle disait, vous devriez faire comme nous. Parce que Kino était très proche de ces gens. Je pense qu'il y avait une branche d'UNICEF qui était spécialisée sur justement l'hygiène, apporter des brosses à dents aux enfants puis tout. Puis Kino, il contribuait à cette branche-là. Je trouvais ça très intéressant.
C'est une grande préoccupation, ça, que les enfants soient propres et maintiennent une bonne santé, une bonne hygiène de vie dans une époque où la mortalité infantile était très haute et que les maladies étaient très graves. Puis il tuait beaucoup de gens. Et tout ça, ça m'amène à penser que, tu sais, je vous ai dit, quelqu'un qui s'en tirait comme une poubelle, ben il pourrait juste pas être en société, en tout cas aujourd'hui, on pourrait pas l'accepter. Mais c'est très normé, hein, l'hygiène, c'est tout un code, un ensemble de codes sociaux qu'il faut respecter. Et dans un des livres, je lisais que le mot politesse, ça vient de l'italien politezza, qui signifie propreté, élégance, raffinement. Donc, on est ici dans le respect des convenances, en gros, dans les règles de savoir-vivre en usage dans une société. Et l'hygiène, la propreté de soi, de ses vêtements, de ses possessions, c'est une partie intégrante du savoir-vivre. Et l'hygiène, en fait, est une condition de vie en société. Ça peut prendre différentes formes, mais l'idée de devoir faire un certain effort d'encadrer, de structurer le corps, ses émanations, ses déjections, sa pilosité, bien ça demeure à travers les époques.
C'est sûr.
C'était très sérieux et intelligent ce que tu disais. Et pendant ce temps-là, il y avait
Est-ce
qu'on est bien quand on est dans son bain qui jouait.
On aime ça mélanger ça.
D'ailleurs, vive les paradoxes.
Je tiens à le mentionner, Patrick Zabé, cet interprète qu'on entend en ce moment. Donc, on va pouvoir... C'était notre épisode sur l'hygiène, ici au cabinet des banalités. Et la semaine prochaine, on va pouvoir se retrouver pour un épisode sur le rire. Même heure, même poste, c'est-à-dire chez 94.3 à 19h30, lundi prochain. Donc, à la prochaine.
Gratte-moi bien le dos, gratte-moi, mais ne me chatouille pas trop. Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Chiz te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Vous écoutez le Beatnik Show avec Nicolas Leclerc sur les ondes de Chiz 94.3 et de CKMN 96.5.
C'est un choix auquel chacun de nous est confronté. Rester ordinaire, pitoyable, minable, traverser une misérable existence.
dit que j'avais pas le choix d'éviter leur musique monotone à ma table. Fois que je suis devenu coroner au mic, Dr Manhattan, rappeur bleu cadavre. Aujourd'hui, pour faire un move, ils font en sorte que nos valeurs survivent dans leur tombe. C'est ce qui me donne le blues. C'est des manques que la toute puissance se retrouve. Vu qu'on a tous une peur bleue qui nous crisse dans le rouge, faut se prendre en main pour bâtir de quoi de solide dans ce monde de fou. L'avenir se lit des ponts, mais la Bible m'a appris que l'être humain vaut pas un clou. Reality check en bois face à cette industrie. Grand méchant loup qui m'a promis que je finirais sur la paille si je donne mon dessous. On m'a dit que seules les briques de billets de vivre, ceux qui en vaut le coup. Impossible, cette histoire tienne debout. Cache le botomie, personne s'épargne sur la planète économie. Je vais toujours revenir à la charge contre le monde d'aujourd'hui. C'est pas juste l'argent qui blanchit. Si la somme crée l'incendie, réparti en fumée, j'y communique comme un pot rouge.
C'est instant.
Normal que je m'en prenne au système jusqu'à ce qu'il n'écrase. Dans ce monde où tu fais pas long feu, si t'as pas d'argent qui se flambe. Musique incinératrice de tout ce qui lit comme l'unique. On phobie leur défi, c'est d'attention nourrie la flamme en eau. C'est depuis la nuit des temps que cette absurdité voit le jour. Rapper, c'est comme tenter d'expliquer l'absurdité à un sourd. Underground style, je fais une levée de fond façon fuck ton profit. On encaissera plus leurs conneries, ils vont nous le payer à leur tour. Mais je sans son nom texte, dans sa tête, tout ce qui compte, il trouve votre brebis. J'aurai de l'ouverture face à lui quand je pratiquerai son autopsie. J'vois un corps sans âme qui me décrira qu'est-ce que nos bodies. J'aurai de l'ouverture face à lui quand je pratiquerai son autopsie. Ce business dans son nom texte, dans sa tête, tout ce qui compte, il trouve votre brebis. J'aurai de l'ouverture face à lui quand je pratiquerai son autopsie. J'vois un corps sans âme qui me décrira qu'est-ce que nos bodies. J'aurai de l'ouverture face à lui quand je pratiquerai son autopsie.
On constitue ce qu'on a appris, pas la philosophie du tout. Veux-tu bien me dire ce qu'on a compris? On a la maladie des fous, les conformistes, que leur esprit est si fermé que c'est pathétique. Je socialiste, un gars simpliste, pas faire comme vous, mais prolifique. C'est colérique, le mouvement de masse nous a fessé comme misery. C'est tragédique, en ce moment, je marche dans un chantier qui m'horrifie. Je qualifie comme insensible, car vous pouvez pas vivre sensible. J'ai déjà dit, mais j'étais invisible parce qu'on est peu déconvertible. J'suis pas comme vous, ni comme personne. Ça sera pareil, mec, mon personne. J'aurais vu le monde qui déverconne, et puis des cons qui s'empoisonnent. Marginal en visuel, ils fument des joints, ils font du rap. On comprend rien, c'est pas endurable. Ferme ta gueule, mouton de la troupe. Tu changes rien, c'est incontournable. Pendant que tu joues, joue, tu t'écoutes. Y'a qu'à attendre que les vautours se placent. Situation inefficace. Diversité en v'là un mot. Qu'on sorte nos rangs dedans le troupeau. Nos qualités sont mises.